Bien des femmes vous le diront, Grégory. Tout le monde se précipite, hors d'atteinte du Saint-Jean Rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Grégory. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Grégory. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un...
Monica Youn au micro. Nous avons deux invités aujourd'hui, deux sacrées nanas. C'est Sophie Saint-Rapt, artiste plasticienne, et Mylène Vignon, poétesse écologiste, rédactrice en chef de la revue Saison de Culture. Alors je commence avec Sophie. Sophie Saint-Rapt, bonjour.
Bonjour Mona.
Alors vous avez commencé à peindre il y a 28 ans. Votre sujet de prédilection, c'est le corps de la femme. Et ce que j'aime et que j'admire dans vos dessins et vos peintures, c'est ce mélange de lyrisme et de crudité. Vous peignez la femme avec émotion, comme de l'intérieur. C'est pas policé du tout, ça peut déranger certains, c'est rebelle, c'est sauvage, très naturel. Alors, vous pouvez nous raconter un peu vos débuts, comment vous avez commencé tout ça?
J'ai commencé sur le tard par rapport aux artistes de ma génération, parce que j'ai fait du droit et j'ai travaillé dans l'administration très jeune, à 23 ans. Pour des raisons économiques et alimentaires, je devais travailler très jeune et... J'ai repris la peinture, puisque j'avais dessiné et peint avant mes études de droit, en rentrant dans l'atelier de Hachepa, qui est mort maintenant, et où j'ai appris à dessiner surtout le corps. Le nu, ma formation, c'était ça. Et lui me convenait très bien parce qu'il avait aussi un dessin et des gravures très érotiques. Donc j'étais dans ce qui allait devenir mon élément, puisque j'ai quand même travaillé... 6 ans dans cet atelier, tout en travaillant au Sénat. Voilà. Donc, la femme a été, dès le départ, le nu féminin, ma source d'inspiration. Et après, j'ai développé ma propre écriture, où je... Évidemment, comme vous le dites, je suis partie de l'intérieur du corps de la femme, puisque je suis moi-même une femme.
Oui, mais ce qui m'intrigue, c'est cette émotion qui se dégage de vos peintures. Je sais que ce n'est pas facile à expliquer, mais est-ce que vous nous sauriez nous dire pourquoi vous êtes émue par le corps de la femme?
Parce que j'ai aimé les femmes à une période de ma vie. De toute façon, je ne peux pas peindre des femmes comme ça sans avoir été homosexuelle un petit temps. D'ailleurs, je suis sûrement toujours homosexuelle, mais bisexuelle, on va dire. Voilà, j'ai commencé ma vie amoureuse avec les femmes.
D'accord. Et au départ, c'était acrylique et encre et
Toujours sur papier, encre, acrylique, fusain, dessin.
Et au départ, ça.
Au départ, toujours le fusain et l'encre. Ouais. Voilà. Et après, j'ai développé avec de la peinture, mais acrylique, toujours à l'eau, qui était le matériau qui représente le corps de la femme.
Alors justement, liquide, voilà. On sent justement qu'il y a un plaisir à mouiller le papier, à faire fuser les couleurs.
Voilà. Alors, ça parle aussi de l'intérieur de la femme et puis aussi de son plaisir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'érotisme dans
mon
menu.
Oui, c'est très sensuel, très érotique.
Sans être jamais agressif, mais bon, je montre beaucoup le sexe de la femme.
Oui.
C'est ça qui n'est pas toujours facile, même aujourd'hui.
Vous voulez dire que ce n'est pas facile pour le regard, par rapport au regard de l'autrui ?
Même pour l'exposé, parce que ça a été souvent censuré, parfois.
Censuré.
Pas clairement, mais... Voilà, on montre pas, on n'expose pas les peintures les plus qui montrent le plus en évidence le sexe de la femme.
Oui.
Moi, j'avais envie de le montrer à la fois parce qu'on vient tous de là, parce que c'est aussi une source de plaisir
sans fin. La couleur, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça suggère la couleur, parce que j'ai vu qu'il y a des couleurs, les rouges.
Ah oui, jaunes. Alors j'ai fait beaucoup de dessins et d'encre noir et blanc au départ.
Ah oui.
Et avec cette série des femmes du monde, je me suis poussée moi-même à travailler les couleurs. J'ai fait les femmes blanches européennes rousses, les femmes asiatiques en or, les femmes africaines en bleu, etc. Donc ça a été un prétexte pour développer un chromatisme que j'avais pas à la base, et aussi pour montrer la différence des corps des femmes, qui ne sont pas toutes filiformes et maigres,
mais très en chair,
voilà, selon... selon les morphologies et les pays, voilà.
Ah oui, et ces couleurs, c'est une manière d'exprimer la profusion,
la diversité, la variété des corps féminins, puisque les femmes asiatiques ou les femmes africaines, c'est pas du tout les mêmes morphologies ni les mêmes corps, ou les femmes européennes par rapport aux femmes orientales, etc. Donc j'ai choisi des chromatismes qui me paraissaient représenter, par exemple les femmes européennes, je les ai fait orange et rousse, parce que c'est les rousses qui me paraissent les plus
orange,
flamboyantes,
les femmes européennes,
oui. Voilà.
Et les asiatiques par exemple
en or,
en or
et noir,
et noir.
En bleu outre-mer. J'ai fait toute une série de femmes africaines.
Ah oui.
Mais bon, toutes les femmes très voluptueuses, les plus, on va dire, rondes ou grosses, n'hésitons pas à le dire, c'est des œuvres que j'ai toujours pas vendues 10 ans après. Hein.
Ça passe pas.
Ce qui a marché, c'est les asiatiques et les européennes.
Ah oui.
Ouais. Donc ça passe pas cette
profusion,
énorme rondeur, des seins, des hanches.
Oui.
C'est pas dans les critères.
C'est pas dans les critères
auxquels on nous habitue, occidentaux. Parce que le corps de la femme n'est pas une planche à pain, même si ça n'a pas la puissance des corps africains. On a toutes des formes, sauf quelques top modèles qui ne manquent rien.
Quoi que la tendance, quand même, aujourd'hui, est à la rondeur.
Ça revient à la mode.
Tu vas bientôt être très, très, très à la mode.
Oui, mais haute couture, c'est quand
tout
même
à fait,
très,
Mylène,
très maigre.
Oui. Et je vous ai entendu dire dans une interview que les femmes sont des déesses. Et pourquoi cette sublimation
Je repars de la préhistoire. Elles ont été des déesses à l'époque du paléolithique, avant la sédentarisation. Toutes les Vénus que j'ai réinterprétées récemment, préhistoriques, ont des formes incroyables, et ces petites statues ressemblent à des déesses de la fertilité. Voilà. Donc pour moi, elles restent aussi des déesses aujourd'hui, parce qu'elles doivent être respectées.
Oui. Même on sent un grand respect aussi dans votre dessin. Il y a un respect et un amour du corps féminin.
Oui, je trouve le corps féminin beaucoup plus émouvant et attendrissant qu'un corps masculin. Il est plus mystérieux. Donc,
ça, c'est un point de vue.
c'est mon point de vue d'artiste, et ça se traduit dans mes nus féminins. Moi, le corps des hommes ne m'émeut pas. Non, je trouve trop sec, le sexe est apparent, les femmes c'est plus mystérieux, tout est à découvrir. Je préfère ça, mais bon, effectivement c'est un point de vue et plutôt homosexuel et un point de vue d'artiste. Donc ça se traduit dans ma représentation.
Tout à fait, alors on est sur Radio Libertaire 89.4 en compagnie de Sophie Sarrap et Mylène Vignon. Sans transition, on va parler de votre enfance. Sophie, vous avez eu une enfance heureuse ?
Pas tellement, non. Non. Une enfance compliquée, oui. Mon père est mort quand j'étais très jeune, enfin, j'avais 6 ans. Et ça a été une enfance un peu chaotique, voilà.
Et quand vous étiez petite, vous rêviez d'être peintre ou vous aviez d'autres rêves ?
Non, j'ai eu très vite envie de dessiner, oui. Enfin, et d'ailleurs, ma mère m'a permis de...
À quel âge ?
Oh ben, je sais pas, de 11, 12 ans, tout ça, j'avais dessiné beaucoup. Après, j'ai pris des cours de dessin à partir du lycée. En plus, parce que les cours... Au lycée, n'était pas très porteur. Et voilà. Mais après, j'ai dû rentrer en droit à Assas très jeune, à 17 ans.
C'était un choix ou c'est vos parents qui ont voulu
ou
c'est
pas... c'était pas un choix.
C'était pas un choix. Non, c'était un choix.
Un choix forcé.
Guidé. Un choix guidé, d'accord. Et donc, quand vous pouvez nous citer un livre qui vous a aidé, guidé dans votre vie, quand vous étiez adolescente.
Alors, il y en a quand même. Il y a Colette. Quand même,
qui a été
une inspiration parce que c'était d'abord une femme écrivain, il y en avait pas tant que ça, hein. Et puis son écriture libre, c'est une femme libre, voilà. Mais ça, je l'ai lu très tôt, et après le choc, le vrai choc, quand je vais avoir 18 ans, c'est Céline, Le voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Qui m'ont vraiment...
C'est son écriture qui...
Oui, son écriture et puis la façon d'aborder la vie.
Oui.
Ou la mort.
Alors, je sais que... Je ne sais pas quel est le grand tournant de votre vie. Difficile à dire.
Le grand tournant, c'est quand j'ai eu un enfant.
Ah oui.
Voilà.
La maternité était importante pour vous, alors?
Bah, elle est venue tard et parce que ma mère était morte.
Très attendue alors.
Si ma mère n'était pas morte jeune, je pense que j'aurais pas eu d'enfant. Donc ça a été une réponse.
Une réparation alors.
Une réponse surtout par la vie à la mort de ma mère qui est morte quand j'avais 30 ans.
Ah oui.
Et donc,
je comprends.
La réponse de la vie était nécessaire et j'ai eu un enfant sans réfléchir. Parce que,
donc c'était un grand bonheur, ça.
Bah, c'est un tournant parce que ça a changé ma vie, forcément.
En bien mère.
Oui, s'occuper de quelqu'un d'autre, c'est forcément mieux que de s'occuper de soi au bout d'un moment.
Alors Sophie Sarrapt, à 17 ans, vous étiez une jeune femme très idéaliste. Vous dites que vous vous sentiez proche du mouvement libertaire et que vous avez lu le fameux Bakounine.
Oui, c'est-à-dire en terminale, on avait une prof de philo qui était très marxiste. Donc elle nous faisait lire Marx, Engels, etc. Et moi, j'étais plutôt... sans l'avoir formalisé à Nard, j'écoutais tout le temps Léo Ferré, j'aimais toute cette chanson à texte qui
ah oui.
de
vous monde. Écoutiez tout
ah oui j'écoutais en boucle Léo Ferré et puis voilà c'est Léo Ferré et puis plein de d'autres artistes.
Sans que personne dans votre famille vous ait initié, dites voilà c'est venu comme ça
Léo Ferré, enfin les chanteurs à texte, ça venait un peu de ma famille quand même. Mais moi, j'étais très, très... Léo Ferré, Reggiani, Gainsbourg, mais des premiers temps.
Vous étiez une jeune fille révoltée ?
Non, je ne pouvais pas être révoltée parce que je n'avais pas le temps. Vu l'état de ma famille, je n'avais pas la possibilité d'être révoltée vu le contexte familial qui était... Comme je vous ai expliqué,
difficile.
Très difficile.
D'accord.
Mais dans ma tête et dans mon imaginaire et dans les chansons notamment, j'écoutais beaucoup Léon Ferré. Et donc, je me suis intéressée à l'anarchisme et j'ai lu effectivement Bakounine quand j'étais en philo pour m'informer sur d'autres courants que le communisme marxiste, léniniste.
Alors Sophie, on va écouter une chanson que vous avez choisie. Ni Dieu ni Maître. Jackie... à la technique, peut-être le passé.
Confus à l'aube démocrate.
J'espère qu'on va l'écouter ici en studio.
Et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend.
Non, ça passe pas.
le ministère de ce prêtre.
Nous sommes sur Radio Liberté.
Et la pitié à la fenêtre. Et le client 89.4 qui n'a peut-être
et ni la Vignon,
ni Dieu,
Sophie Sarap, artiste plasticienne,
et ni maître,
poétesse, écologiste. On a le plaisir de les recevoir aujourd'hui et on va normalement
le
fin doubler une musique
comme un ballon vers les étoiles et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la table.
Ah non, nous on l'a pas. Est-ce qu'on
cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices. Et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'il n'a peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
On vient d'écouter Ni Dieu ni Maître, Léo Ferré. Alors Sophie, qu'est-ce que vous inspire cette chanson?
Ben, une grande liberté, justement, le refus de l'autorité, le refus de l'oppression, le refus de la hiérarchie, etc. C'était dans mon idéal de l'anarchie, c'est-à-dire pas d'État, pas d'autorité, un système où les sans chef, etc. Donc ça, c'est la chanson la plus emblématique de Léo Ferré sur qui lui-même était anarchiste.
Oui. Alors, vous avez été marié à un grand réalisateur de films, Pascal Aubier, qui nous a quitté récemment. C'était un grand cinéaste de ce qu'on appelle la nouvelle vague. Mmh. Vous pouvez nous parler un peu de lui?
Oui, je l'ai rencontré en 2004, donc il y a 20 ans, et ça a été une grande histoire, puisque il m'a fait redécouvrir, parce que j'aimais le cinéma, mais tout le cinéma soviétique, le cinéma de la nouvelle vague, avec des auteurs moins connus que Godard ou Truffaut. Il m'a emmené faire des voyages dans le monde entier.
Oui, on va en parler. On a notamment un grand voyage en Chine où il a écrit le texte et vous avez fait les dessins. On va en parler tout à l'heure.
Voilà, et puis ça a été une histoire d'amour.
Intense.
Oui, j'avais été déjà mariée, puisqu'il n'est pas le père de ma fille, avec Henri Demestre, qui est mort très jeune, à 39 ans. Mmh. Donc, bon, ça avait été un énorme choc à l'époque, mais bon, j'avais ma fille à élever et Pascal a été un formidable beau-père pour ma fille.
Il l'a élevée.
Bah, de 10 ans à
ah oui.
À il y a deux mois, il était son beau-père.
Ah oui, oui, oui.
Donc, elle l'a plus connu, Pascal Aubier, que Henri de Maistre, son père. Voilà. Et puis, ça a été un personnage tellement haut en couleur, brillant. C'est cette génération, puisqu'il était plus âgé que moi, des derniers humanistes, quoi, qui avaient une culture à la fois littéraire, scientifique, de la botanique, etc., parlant plusieurs langues, ayant déjà voyagé dans le monde entier, puisqu'il était aussi au départ ethnologue, et il a quitté Ethno parce qu'il a rencontré... Comme il était germano-pratin, il a rencontré Godard.
Oui, il a commencé le cinéma de manière complètement incongrue. Il n'était pas du tout dans le cinéma. Voilà. Et il rencontre un jour Godard. C'est Godard qui lui propose d'être son assistant.
C'est-à-dire qu'il le rencontre par Barbet Schroeder, tout ça, qui était. Tout ça habitait Saint-Germain-des-Prés, était à Louis Grand ou H4. Et il cherchait une actrice étrangère et il est arrivé comme il connaissait beaucoup de monde et qui parlait plusieurs langues. Il a amené plusieurs actrices pour un film de Godard et Godard l'a pris comme assistant sur Pierrot le Fou et Une femme est une femme. Et puis après, il a fait ses propres films.
Ça, c'était avant de vous rencontrer.
Ah oui, oui, oui. Bien tout avant. Ça, c'est, oui, puisque moi, j'étais à peine née quand j'étais en 60. Je suis née en 60, donc, c'était bien avant. Moi, quand je l'ai rencontré, il avait fait déjà aussi son dernier long métrage, Le Fils de Gascogne.
Ah oui.
Et avec moi, il a fait encore des courts métrages. Mais
ah voilà. D'accord. Alors, vous avez fait un grand voyage ensemble en Chine, donc avec Pascal Aubier, votre mari. Et il en a tiré un livre original qui est illustré par vos dessins. C'était le Transsibérien. Vous avez fait un voyage en fait, ça, extraordinaire.
C'est parce que j'avais une exposition en Chine. Pour une fois, c'est moi qui l'emmenais là-bas, à Pékin. L'Est éveillé, l'Ouest émerveillé, organisé par Zhang Lala, qui est devenu mon agent pour la Chine. Et donc, c'est Pascal qui, comme il ne pouvait plus prendre l'avion pour des raisons de santé, a organisé le voyage en transsibérien pour l'aller jusqu'à Pékin, ce qui a duré 6 nuits, 7 jours.
Oh, c'est un voyage extraordinaire.
En traversant la Sibérie, encore enneigée, c'était magnifique. Et puis, il a prévu, pour ne pas revenir non plus en avion, un retour en cargo mixte, c'est-à-dire des cargos commerciaux où il y a 4-5 cabines voyageurs. Et on est revenu de Shanghai à Barcelone en un mois.
Pour le plaisir du voyage, alors ?
Ah oui, pour le voyage comme il se faisait avant. Et non pas en prenant un avion où
on ne voit rien.
On est poussé en 10 heures au bout du monde. On ne voit rien, on reste 4 jours sur place. Ouais. Donc, il a fait un voyage comme on en faisait encore juste avant la dernière guerre, en fait. Les gens ne voyageaient pas en avion comme ça.
Non, là, maintenant.
Jusqu'aux années 50.
Alors, ce livre s'appelle Le fabuleux voyage des enfants du bon Dieu vers la Chine.
C'est Pascal qui a trouvé le titre parce qu'il était, en plus d'être un cinéaste rare, puisqu'il a fait des courts-métrages géniaux, très nombreux courts-métrages, près de 40. Il écrivait très bien, il dessinait très bien. Voilà, donc il a fait son journal.
Ah, il dessinait aussi.
Oui, ouais. Dans le livre, il y a aussi des dessins de Pascal et mes dessins.
Et vos dessins, mais ça représente ce que vous avez vu dans le voyage.
Oui, c'est notre voyage, d'abord dans le train, ensuite à Pékin, ensuite dans le bateau. Et notre tour, on s'est arrêté en Malaisie, à Kuala Lumpur, on s'est arrêté à Beyrouth, on s'est arrêté
voyage.
À Malte, etc., jusqu'à Barcelone.
Alors, on n'a pas encore dit une chose importante. Où peut-on voir vos œuvres, Sophie ?
Alors, en ce moment, j'ai une exposition à Lille-sur-la-Sorgue, mais qui va se terminer dimanche. Noir taureau, Vénus rouge. Donc, mes nus de femmes rouges au pastel ocre rouge, qui sont là très puissants, et le rouge étant une couleur du sang, voilà. Le sang, ça nous connaît, puisque tous les mois, nous sommes rappelés jusqu'à un certain âge assainis. Et les taureaux de Monsieur Guan, qui est un peintre chinois avec qui j'avais exposé à Pékin grâce à mon agent chinoise Zhang Lala. Donc, c'est une expo qui avait eu lieu à la galerie Terrain Vague il y a un an et qui a été reprise par la galerie Retour de Voyage à Lille-sur-la-Sorgue ce mois-ci jusqu'à mi-juin. Voilà. Pour l'instant, c'est l'expo que j'ai, sinon...
Ah bah c'est pas mal, mais maintenant on va vous suivre là. Voilà. Je recommande à tous les auditeurs de découvrir, ils peuvent voir, il y a plein de livres.
Moi, j'ai vu un site internet
film le magnifique livre érotique que j'avais lu avec des poèmes, avec... comment il s'appelle ?
Sophia Erotica.
Ah, c'est extraordinaire.
C'est l'œil de la femme à barbe qui l'a édité. Et là,
extraordinaire, avec plein de poèmes. Et les poèmes, je ne sais pas de qui sont...
Érotiques de Verlaine, Arabal, Pierre-Louis, Bataille. Ah, tous les grands poètes érotiques. Enfin, pas tous, mais des
frères. Il faut absolument découvrir
Sophia Erotica.
Sophia Erotica aux éditions...
De l'œil de la femme à barbe. Voilà. Et là, on a fait une édition, une deuxième édition sur 20 ans de travail érotique.
Voilà, ah oui, oui.
Qui est sortie justement l'année
dernière.
C'est
bien ça. Et on a dit de vous, Sophie Sarab, voluptueuse et chamanique. Vous approuvez ces qualificatifs? J'ai lu ça, j'ai dit, oh là là, voluptueuse et chamanique,
oui, c'est bien ça. Il y a beaucoup de volupté dans mes nus, peut-être plus que d'érotisme, puisque j'adore la courbe. Voilà, en fait, tout à l'heure, vous me posiez la question sur le corps. Pour moi, le corps de la femme est en courbe et donc représente la vie. Oui. Elle va donner la vie, la femme, qu'elle peut ou elle va donner la vie, elle n'est pas obligée, mais elle est capable de donner la vie. Oui. Et toutes ces formes représentent la vie. La courbe, le cercle, la lune, l'œuf, etc. Vrai. Tout ça, c'est représenté dans mes nus avec la volupté des seins, des fesses, des hanches, ce qu'on ne trouve pas dans le corps masculin. C'est normal, c'est un autre genre.
C'est un autre
bien
genre,
qu'on nous explique qu'il n'y a plus de genre, et sur quoi je ne suis pas du tout d'accord. Et voilà, et chamanique, parce que mes nus remontent, enfin j'essaie de revenir aux nus de la préhistoire, des premiers temps où les femmes étaient déifiées, puisque avant la sédentarisation et la période néolithique, c'était la femme qui était la déesse.
C'est matriarcal.
Oui, c'était
une société matriarcale.
Ben oui. On trouve chaque année de nouvelles statuettes de ces Vénus préhistoriques. La dernière a été trouvée à Amiens. Moi, j'en ai représenté 7 en gravure, de la Vénus de Lespugue à celle de Savignano. C'est toute la puissance de la fertilité et de la sexualité qui est montrée dans ces premières sculptures de l'humanité. Et ça paraît presque évident que ce sont des déesses, quoi. Ce sont des représentations de la puissance féminine.
Sacré, oui, voilà. C'est très beau, ça fait rêver. Alors Mylène Vignon, bonjour, vous êtes aussi l'amie, vous êtes collagiste, poète, et aussi l'amie de Sophie.
Oui, bien sûr, bonjour.
Bonjour, bonjour Mylène Vignon. Alors, vous voulez dire deux mots sur le travail de Sophie que vous avez suivi, ou d'abord ?
Il y a beaucoup plus que deux mots à dire sur le travail de Sophie, qui a bien raconté, évidemment, son œuvre. Hein. Oui, Sophie, elle fait partie des artistes que j'admire, que j'aime, avec ses odes à la femme, à la fertilité, à la fécondité. Elle dit tout. Elle dit tout ce qu'il y a à dire sur le thème de l'art érotique féminin. Bon, elle a abordé aussi l'homme, mais là où elle excelle vraiment, c'est dans ce secteur féminin où on se retrouve, moi, un petit peu avec mes collages aussi. J'aime beaucoup parler
d'érotisme. Alors justement, on va parler de vous, commissaire d'exposition, critique d'art, poétesse écologiste, rédactrice en chef de la revue Saison de Culture.
Et éditrice aussi de la Saison de Culture.
Et c'est pas rédactrice, c'est éditrice de la Saison de Culture.
Ouais.
Vous voulez dire quelque chose, saison de culture qui est toujours très foisonnant.
Oui, tout à fait. Merci d'ailleurs d'ouvrir cette parenthèse. Oui, saison de culture, c'est un média en ligne qui existe depuis 15 ans. 15 ans, au printemps prochain, nous allons faire la fête des 15 ans.
Ah oui.
Et qui a décliné aussi sur une maison d'édition éponyme il y a 10 ans. Et aussi, c'est toute une série de florilèges où nous nous réunissons autour de thématiques au Café de Flore, privatisé pour nous, au premier étage du Café de Flore.
Chaque mois, c'est ça, c'est
oui,
ça.
À peu près, hein, à peu près une fois par mois. Parfois quand même des déplacements, des hors les murs dans d'autres endroits. Mm-hmm. Mais en règle générale, on est au Flore et on accueille beaucoup de monde autour d'une personne, d'un conférencier que je choisis moi-même, en même temps que la rédaction de mes éditos. Donc c'est toujours un choix personnel. Et d'ailleurs, Monique, il faudra venir nous parler de Radio Libertaire.
Tout à fait, oui.
Voilà.
Alors revenons aux origines, enfin votre enfance. L'art est dans l'ADN de votre famille, puisque votre aïeul fut l'architecte de la Madeleine, ai-je appris.
Oui, par exemple.
À Paris. Est-ce que c'est là que se situe le début de votre passion pour l'art? Est-ce
Alors,
que ça a une influence?
Oui et non, parce que c'est plus le descendant de mes enfants. Enfin, mes enfants sont des descendants. Vignon, c'est le nom de mon mari. Et mes enfants sont les descendants directs de Pierre Vignon, qui était l'architecte de la Madeleine. Donc, j'ai évidemment accepté la pérennité avec ce nom de ce personnage qui m'est très cher. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup à l'époque d'expositions à l'église de la Madeleine, dans l'église, sous l'église, autour de l'église, avec grand plaisir, en hommage à ce personnage qui est Pierre Vignon. Voilà, pour l'histoire.
Pour l'histoire,
la petite histoire.
D'accord.
De la famille.
Et donc, quand est-ce que vous avez commencé à être collagiste, à faire des collages
Les collages, j'en faisais depuis très très longtemps. À 18, 19 ans, je faisais déjà des collages pour offrir à mes amis, mes camarades, aux anniversaires, crémaillère, je faisais des collages. Et lorsque nous avons été confinés, il y a 4 ans maintenant, je crois, j'étais dans la rédaction d'un roman et là, j'arrivais plus à m'en sortir parce que je regardais autour de moi, c'était plus les mêmes gens. Je me suis dit, et si le monde changeait, je laisse ça de côté parce que j'étais plus du tout
dans l'écriture,
dans l'inspiration de ce roman et que j'ai repris d'ailleurs et qui est terminé maintenant. Je vais l'envoyer aux éditeurs. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai du temps, beaucoup trop de temps, et j'ai des éléments pour faire des collages, forcément. J'avais des bouts de carton, j'avais pour faire des fonds, j'avais énormément de cartons d'invitation d'artistes, puisque c'est un peu mon métier, de m'occuper d'artistes, et j'avais des magazines, toutes sortes de choses, des étiquettes, des bouts de papier, des bouts de ficelle, des bouts de n'importe quoi, de textile même, et je me suis lancée dans une série de collages, à raison d'un par jour. J'avais un premier rendez-vous avant celui de 20h où je montrais mes collages sur Facebook. Et il y a eu tout un grand fan club qui est arrivé. Un éditeur qui a été prévenu et qui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle en fait un par jour. est-ce qu'ils sont signés? Est-ce qu'il y a des numéros? Est-ce qu'ils sont datés? Machin. Et c'est arrivé à moi et on m'a proposé de faire un livre, un journal de bord avec tout ce qui se passait jour après jour dans mes collages, puisque c'était la vie de tout ce qu'on était en train de vivre ensemble au même moment. Il y avait le coiffeur à la maison, la non-livraison d'un produit alimentaire, la mort de Christophe, par exemple, la mort d'un ami.
C'est paru
tous les jours. C'est paru dans un livre qui s'appelle À 20h, tous à la fenêtre.
Incroyable.
Chez Area, les éditions Area, dirigées par Alain Villa et Arada Funico. Et ce livre, bien sûr, est paru à l'époque et l'exposition qui allait avec. Le premier jour du déconfinement, ça a été mon émission, mon édition,
Oui.
Et l'exposition qui entourait tout ça.
Bon, alors, c'est pas un mauvais souvenir.
Le confinement,
c'est pas un mauvais souvenir.
Vous avez éclaté là.
Vous avez bien travaillé. Et vous aussi, Sophie?
Non, Mylène a travaillé pour elle parce qu'elle elle s'est beaucoup occupée d'autres artistes. Elle continue.
Elle a travaillé, elle s'est exprimée à ce moment-là.
Voilà. Et là, tout est arrivé. Il y a eu d'autres livres depuis.
Formidable.
3, 4.
Oh, formidable. Ça a déclenché un processus créateur.
Ah oui, oui, une énergie presque compulsive.
Et comment vous êtes amies, comment vous vous êtes connues, Sophie?
Moi, je m'occupais d'Arsena, j'en ai pas parlé parce que on peut pas parler de tout. Mais je me suis occupée pendant 9 ans d'une expo d'art contemporain au Sénat. J'étais missionnée par le cabinet de la présidence Poncelet à l'époque pour choisir un commissaire d'expo qui choisissait lui-même un thème et une trentaine d'artistes. Et donc Mylène, qui était commissaire, si Arsena s'était prolongé au-delà de 2008, aurait sûrement présenté un projet. Expliquer.
Oui, absolument, qui s'appelait, Parc-en-ciel.
Voilà, Parc-en-ciel. C'est ça. Et on s'est rencontrés parce que je recevais des projets de commissaires d'expo et je devais en présenter au moins 2 ou 3 chaque année pour que la présidente du Sénat choisisse le sujet et le commissaire avec son équipe d'artistes. Mais bon, ça a été interrompu à Sénat avec la fin de la présidence
Poncelet,
malheureusement.
Ah bon? Donc vous vous êtes rencontrés
à ce moment-là. Je crois que c'était effectivement dans les escaliers
un coup de
foudre
amical
où j'ai été frappée par cette magnifique jeune femme avec son sac en forme d'arrosoir.
Ah oui, elle a un sac en
forme
d'arrosoir.
J'ai écrit un poème sur elle avec ce sac.
Ah bah dites-le.
Non, je l'ai plus là dans la tête.
Ah bon,
il y a longtemps.
Il y a tellement longtemps, c'est quand on s'est connus.
Un sac en forme d'arrosoir.
Oui, absolument.
Mais il est toujours là.
Sophie et ses arrosoirs.
Il est célèbre.
Absolument, très célèbre. Et on sait.
Jackie a un mot à dire, Jackie?
Non, mais c'est comment. Mylène, ça fait aussi presque 30 ans qu'on se. Qu'on se connaît.
Oh là là,
Et elle a évidemment fait beaucoup d'expositions, notamment au centre culturel Christiane Peugeot à l'époque. Oui. Et c'est là qu'on s'est connus.
Exactement. Voilà. Tout à fait, Jackie. Voilà. On ne s'est pas quittés, nous non plus.
Voilà.
Comme avec Sophie.
Nous sommes comme en famille. Là.
Ah, mais absolument. Nous sommes une famille. Donc voilà pour cette histoire de comment on s'est connus avec Sophie.
Alors, je demandais à Jackie si la prochaine chanson musique est prête.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est une musique qu'a choisi. Mylène, au départ, c'était Les petits papiers de Régis Desforges.
Ah oui.
Pour parler du collage. C'était idéal.
Elle avait des yeux bleus pâles qui fascinaient, Il y avait le bas de son visage pâle, de femme fatale qui tourbillon fatale, de femme fatale qui fut fatale. On s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail.
C'est normal, on l'entend pas, il a
pas. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
C'est nous qui n'entendons pas la musique.
Oui, c'est ça. Voilà, là il y a le micro, le CD.
Pour leur gagner du pain, le reste de ma vie, mais qu'ils ne soient pas marins. Qui...
Alors, de quoi on va parler après? Il y a encore ton enfance et tout, tu peux y aller. Tu raconte ta vie, le dictionnaire, c'est bien. Ah, le dictionnaire, oui. Nous sommes à l'antenne. Alors, Radio Libertaire 89.4 pour Parcours d'artiste. Mylène Vignon vient d'écouter la chanson... de Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est ce que vous avez choisi.
Ma vie tout entière, Sophie qui est à côté, qui me connaît quand même depuis beaucoup de temps, c'est que ma vie est un véritable tourbillon, parce que entre saison de culture, mon art, qui est quand même aujourd'hui complètement fou, et qui me fait me lever la nuit même quand j'ai une idée pour un collage, parce que ça commence avec des petits morceaux, puis après encore un, et ça me fait tourbillonner ma vie, forcément. Et puis tout ce que j'ai à y mettre, ma famille, mes enfants, toute la famille Saison de Culture, qui est une immense famille, qui me fait aussi beaucoup tourner la tête dans tous
combien
les sens.
De personnes s'embrassent
Saison de Culture, énorme. Peut-être 250 aujourd'hui.
Ah, c'est énorme.
Ah, oui. Il s'agit de diriger quand même tous ces gens.
250 personnes.
Avec amour, bénévolement, avec beaucoup d'amour et de regard sur ce qu'ils font. Et c'est un tourbillon de regarder aussi ce que font tous les artistes. Effectivement, ça évoque ma vie.
Plus l'écriture.
Plus l'écriture.
Ah oui, mon écriture, parce que là, je suis sur le point d'envoyer un roman. Tous les textes, les articles, les portraits, parce qu'on va avoir un deuxième fil du temps qui va paraître en début d'année. On a un peu retardé, parce que j'ai encore trop de textes à écrire. On en retrouve toujours. On retrouve toujours des gens passionnants. Donc, le fil du temps paraîtra en début d'année.
Le fil du temps.
Et entièrement écrit par moi, sur toutes mes belles rencontres. Et les portraits sont de Wojtek Konierczewski, mon
avec
alter
qui
vous
travaillez régulièrement.
Voilà, mon alter ego depuis le début. On
qui est photographe.
Deux à diriger, photographe dans son studio à Montrouge, qui est notre studio. Donc on travaille avec acharnement à ce deuxième fil du temps.
Ah oui. Alors on parle un petit peu de votre enfance.
Oui.
Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse et quel genre d'enfant vous étiez
Moi j'étais une petite fille. Oui, j'étais pas malheureuse. J'étais beaucoup. Pas élevée, mais en contact avec ma grand-mère, c'était dans les années 50, ça trahit mon âge, mais c'est pas grave. Et j'étais une petite fille de l'après-guerre, des 30 Glorieuses, alors c'était quand même pas mal, la France se relevait, j'avais ma grand-mère, on était tous dans la même maison, ma mère qui m'a eu très jeune, a carrément passé le bébé à sa mère, mais dans la même maison,
dans la même maison
à étage, donc on était tous en famille jusqu'à mes 8 ans et demi, où après on s'est un peu séparés parce que la maison avait vécu des dommages de guerre, elle était un peu vétuste, un peu craquelée dans les murs, et on a dû tous être séparés, ce qui a été quand même pour moi une douleur. J'aimais bien cette idée d'être en famille, de me réfugier dans les bras de ma grand-mère, d'aller voir mon oncle au troisième étage, mon oncle Jackie, qui est toujours en vie, à 92 ans. Et c'était quand même une belle enfance.
Une belle enfance. Et vous m'avez dit que vous adoriez, enfant, les dictionnaires.
Absolument. À l'époque, on avait le droit de se coucher à 8h30 du soir pour pouvoir aller à l'école frais le lendemain matin. Et moi, au lieu de dormir, je prenais la lampe de poche et sous mes draps le dictionnaire, et j'apprenais, mais j'avais une gourmandise des mots, même une boulimie, et j'apprenais des mots que je ne connaissais connaissais pas, que je trouvais magnifique, qui avait une consonance qui me parlait, et je les réservais à table le lendemain à mes parents qui disaient, mais où est-ce qu'elle est encore allée chercher ce mot-là, cette gamine, comment elle peut connaître un mot pareil? Et là, j'ai plus souvenir des mots, mais c'était terrible, ce que c'était magnifique pour moi d'apprendre les mots, et ça a déterminé tout ce que je suis aujourd'hui, l'amour des mots.
Et en fait, vous saviez que vous vouliez être écrivain, que vous rêviez d'être quoi?
Oui, la poésie.
La poésie.
Oui, bon, les poèmes, c'était toute ma vie. J'étais excellente en français. Oui, j'ai passé d'ailleurs des études de français.
Vous avez fait des études de lettres.
De lettres après le bac. Oui, lettres modernes après le bac. Et ensuite, histoire de l'art, mais que j'ai faite par... Enfin, j'ai fait ces études-là en Poitiers, parce que j'ai eu des enfants très jeunes, à 21 ans, donc j'ai passé la licence après, et puis la maîtrise, je ne l'ai pas passée.
Combien d'enfants?
Les enfants. Deux enfants, mais jusqu'à la maîtrise que je n'ai pas passée, parce que c'était trop dur, j'étais trop femme, là, trop... j'avais 35 ans, il y avait autre chose à faire, donc j'ai démarré dans l'art, à montrer les artistes.
Après avoir élevé vos enfants, finalement?
Non, en même temps.
En même temps.
Ils avaient 10 ans. Ils avaient 10 ans. Je les emmenais avec moi.
Qu'est-ce que vous avez fait alors, à ce moment-là? Vous avez commencé par quoi quand vous
avez... Eh bien, j'habitais Tours à l'époque et j'ai commencé par de belles rencontres avec les artistes en Touraine, dont Olivier Debré, James Coignard, que j'ai connu aussi, le papa d'Emmanuel et le mari de Hordelu. Et j'ai connu ces gens-là qui m'ont formée à l'art. Parallèlement, je suis entrée chez Rombaldi Lithographie, où j'ai appris toutes les écoles de Paris en vendant des lithographies de Braillère, d'Hilaire, de Gantner, de tous ces gens-là, même Dali. Donc ça m'a complètement formée là, sur le terrain, aux écoles de Paris. Et j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, puis après j'ai dit non, la vente des bouts de papier, ça m'intéresse plus. Je veux m'occuper de vraies œuvres d'art originales. Donc là, j'ai commencé à fréquenter les artistes.
Ce qui est étonnant, c'est autant la littérature
je présentais de l'art et j'écrivais sur ce que je présentais. Donc chez moi, c'était une logique, comme j'avais
l'amour
des mots.
Pour vous, la poésie et l'art, c'est complètement lié.
C'est pareil. Dans mon livre Rencontre avec Olivier Debré ou La ferveur de vivre, j'ai écrit des poèmes. Après le départ d'Olivier, je lui ai écrit en poésie. Donc à la fin de ce livre, paru aux éditions Unicité, je transforme. Moi, j'ai toujours un peu transformé.
C'est toujours lié comme
tout
ça.
C'est comme pour mes collages, c'est de l'écriture.
C'est l'écriture qui
a changé de forme, que j'écris avec des bouts de papier, ce que j'écrivais avant au stylo, à la plume, et que j'ai écrit après avec l'ordinateur. Tout ça, c'est lié, c'est de l'écriture pour moi.
C'est de l'écriture, les collages.
Tout est de l'écriture, absolument.
Et il y a eu une exposition de collages?
Ah oui, beaucoup.
Mais plusieurs.
Beaucoup, plein. On en a une à Bordeaux, avec Sophie, voir. En ce moment, mais qu'on voit difficilement. Mais on a une expo à la galerie rue Fondaudège.
D'accord.
GAG.
Oui,
toutes les deux en ce moment, érotique, justement.
En ce moment.
Qui s'appelle le Boudoir des Roses.
Oui. À vous aussi, l'érotisme.
Oui, on est toutes les deux à Bordeaux.
Oui. Avec mes gravures érotiques et Mylène avec ses collages érotiques.
Mes collages érotiques.
Vous avez des collages érotiques.
Ensemble. Oui, dans le même espace.
On y allait en novembre.
J'ai aussi des collages au Japon, à côté d'Osaka, dans la galerie de Miwa Nishi, qui m'a embarqué des collages dans son lieu au Japon, qu'on peut voir encore là-bas, ils sont permanents.
Vous y avez été pour voir?
Non, pas encore, mais j'envisage.
Je vous accompagne là.
Oui, on y va ensemble, allez, les filles.
C'est prévu là, oui.
Ah oui,
avant-hier, m'a dit tu peux venir.
Eh bien, on ira, absolument. Et toi aussi.
Moi aussi, d'accord.
C'est un lieu magnifique où il y a une plage splendide. Enfin, c'est très, très joli.
Une plage?
Oui,
au Japon.
C'est une île, le Japon, forcément. Il y a des
plages. J'imaginais pas des plages au Japon.
Il y a des plages au Japon, beaucoup de plages au Japon.
C'est plein d'îles.
C'est plein d'îles, oui.
Donc, c'est à Osaka.
Et
à côté d'Osaka, à un quart d'heure. Enfin, c'est vraiment à côté. Et j'ai aussi chez, évidemment, la galerie Terrain Vague. Il y a encore des petits collages angéliques qui traînent encore quelque part dans la galerie. Donc,
Alors, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Quand vous étiez adolescente, quels sont les livres ou les œuvres qui vous ont guidée?
Bon, alors, toute petite, c'était le dictionnaire. Après... est arrivé peut-être George Sand, parce que j'ai adoré toute l'œuvre de George Sand, que je me suis ressassée en permanence pendant des années, à telle enseigne que j'ai aujourd'hui un livre sur George Sand qui est paru aux éditions Les Cahiers du Temps de Cabourg, Aurore, un poème qu'elle a écrit pour sa petite fille. Donc j'ai illustré de mes collages un poème de George Sand. Voilà, ça s'est terminé comme ça.
Alors, nous je vois que ici, Jackie me fait signe. Vous,
Radio Libertaire. Ici Radio Libertaire, 89.4 FM.
Voilà. Est-ce qu'il y a une musique?
Non, tu ne m'as pas.
Non, je n'ai pas de
musique. On n'a pas les petits papiers.
Il n'y a pas de. Bon, quel est le grand tournant de votre vie?
Il y en a eu beaucoup parce que ma vie a été un tourbillon. Donc, bien sûr, je serais comme Sophie à dire les naissances de chacun de mes enfants parce que c'est une nouvelle vie, une aventure. Et puis, il y a eu peut-être... Alors, un grand, grand tournant par rapport à l'art, c'est que j'avais peut-être 8 ou 10 ans, je ne me souviens plus trop bien. C'était la fin de la guerre d'Algérie. Et j'avais une voisine dans le nouvel appartement après la maison de famille qui pleurait sur la photo de son mari. Et c'est là que j'ai commencé mon travail d'aide aux artistes parce que j'avais le mari de ma marraine qui était artiste peintre, portraitiste. Et je voyais cette dame qui mettait ses larmes sur la, qui versait ses larmes sur la photo. Et j'ai dit, mais il faut faire un tableau. Mon parrain, que j'appelais mon parrain, qui était le mari de ma marraine, fait des très beaux tableaux avec des portraits. Et du coup, j'ai mis en relation cette dame avec mon parrain. Un portrait en pied est arrivé de son adjudant de mari décédé de la guerre d'Algérie. Et du coup, il s'est retrouvé avec toutes les veuves de guerre de la guerre d'Algérie qui lui ont fait faire des tableaux. Ça a été mon premier métier à 9 ans peut-être.
Aidez, vous avez un art pour aider et guider les artistes. Ça, c'est extra. Vous êtes un peu Pygmalion, quoi. Vous avez une grande aide. Et bon, vous organisez beaucoup de choses, toujours dans l'action, la création et la promotion artistique. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui? Vous allez dans tous ces sens-là? Vous avez plutôt un axe où vous avez envie d'aller plus pour vous
C'est la belle rencontre.
C'est la rencontre.
Moi, je crois que sans la rencontre, je ne ferais rien. En fait, ça a été la rencontre aussi à 8 ans qui a fait mettre en relation cette pauvre dame qui pleurait avec ce portraitiste dans ma famille. Et depuis, c'est ce qui me motive, moi, ce qui me pousse qui me poussera à vivre le plus longtemps possible, c'est les belles rencontres. D'ailleurs, du temps est rempli de mes belles rencontres. Mmh. Et j'aurai peut-être un troisième fil du temps, 5 ans plus tard, je ne sais pas.
C'est les rencontres
absolument, et ça, ça me motive.
C'est à la fois les rencontres avec une œuvre artistique et l'être humain aussi.
Et l'être aussi, bien sûr.
La personne
est très importante avec... Et d'ailleurs, ça englobe aussi son art, parce que la personne correspond aussi à ce qu'elle crée. Donc, bien évidemment, moi, c'est mon levier. Ma motivation.
Alors, toutes les deux, est-ce que vous auriez des souhaits ou des questions à vous poser l'une à l'autre, puisque c'est la fin de l'émission dans 10 minutes?
Alors, je veux dire que Mylène est quelqu'un de formidable. Quoi. C'était une rencontre de quelqu'un qui a créé des liens. Alors, effectivement, au fil du temps, parce qu'au début, moi, je suis rentrée
au début de saison de culture, absolument.
Ça fait donc 15 ans, j'ai l'impression que c'était hier.
Oui.
Elle met une énergie discrète, mais très efficace pour parler des artistes, faire des liens entre eux, les expos, etc.
Ah oui, oui, oui.
Tout en créant de plus en plus, puisque depuis, c'est 2020, ça fait 5 ans.
5 ans de travail, c'était énormément.
2020, elle fait beaucoup de collages, c'est devenu une respiration pour toi,
tout à fait.
Comme ça.
Exactement.
Et voilà, et quand on s'est rencontrés, en fait, moi, j'étais un peu dans ce schéma-là, puisque, je travaillais toujours à mon atelier, mais je m'occupais d'autres artistes à travers Arsena. Où j'ai exposé plus de 300 artistes au début du 21e siècle, de 2000
à 2000. C'est énorme, Arsena.
Et on est encore en lien avec des artistes que, par exemple, j'ai fait rentrer à Saison, comme Esther Segal, Mylène,
Emmanuel,
Françoise Monin, des critiques d'art, des artistes,
Eliana,
Emmanuel Renard, et j'en passe, parce que moi j'ai gardé quand même un lien avec, pas les 300, mais au moins 10 à 15
% tu as su rester très proche.
Des commissaires et des artistes, et des critiques d'art. Donc tout ce qui a été créé là est encore en lien aujourd'hui. ça s'est terminé en 8, donc ça fait, je ne sais pas combien, il faut calculer, 18, 15 ans maintenant.
Ah oui,
ah oui, 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 presque. Oui. Beaucoup de gens sont encore en lien.
Ah oui, tout à fait.
Mylène et plein d'autres critiques d'art et plein d'autres artistes. Mmh. Et ça a fait boule de neige à la fois sur les rencontres, sur les galeries, etc. Mmh. Donc c'est une femme de lien, de... Et d'énergie, et je pense qu'on se ressemble
absolument.
Beaucoup là-dessus.
C'est pas pour rien que nous sommes là toutes les deux.
Non, c'est pas pour rien. C'est pour ça, je vous ai fait venir toutes
Mona
les deux.
Et Jackie. Et
je vous remercie. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Je vous remercie Sophie Sarrat et Mylène Vignon d'avoir accepté cette invitation.
Merci à toi, Mona.
Et c'était formidable. D'ailleurs, je vois que Sophie a mis son rouge à lèvres. Elle est magnifique.
Ah oui, très belle.
Et c'était donc, je pense qu'il faut découvrir tous ces livres. Si vous voulez répéter les titres, tous ces livres, les choses que vous faites aujourd'hui, les expos.
Alors peut-être Aurore aux éditions Les Cahiers du Temps, Cabourg.
Oui.
Tous mes livres de collage avant qui sont chez Area. Area. Il y a 3 livres, je crois. Unicité aussi, les éditions Unicité ont sorti
livre. Aussi, il y a eu beaucoup
La Confidente
de livres,
des Astres, etc. J'ai eu beaucoup de livres chez Unicité avant. Et puis, voilà, je laisse Sophie maintenant parler, parce qu'elle a beaucoup de choses aussi.
Sophia Erotica, Bis Repetita, couvre 20 ans de trait érotique édité par L'Œil de la Femme à Barbe, et Le Fabuleux Voyage des Enfants du Bon Dieu vers la Chine, avec Pascal Aubier, aux éditions Area aussi. Alain Avila est un grand éditeur, on peut le rappeler. Mmh. C'est quelqu'un qui est inventif, génial et,
absolument,
et passionné. Voilà. Et
alors moi, juste un petit mot de Pascal Aubier, qui a été
Pascal
notre
Aubier,
grand rédacteur dans la rubrique cinéma et qui a été d'une liberté, puisqu'on est ici à Radio Libertaire, je lui ai laissé la liberté totale, sans jamais le censurer, de dire des choses exceptionnelles. Et je suis très fière, et bientôt je vais remettre en ligne toutes ces rubriques, parce qu'il a été vraiment un chroniqueur qu'on a adoré.
Des rubriques sur quoi ?
Sur le cinéma.
Toujours le cinéma.
Ah oui,
le cinéma
chronique.
Actuel.
Oui. Oh, oui. Ah oui,
toujours le cinéma.
Mais il a fait aussi un livre qu'on peut évoquer de saison de culture qui s'appelle Ciné-foutoir
dans le couloir.
Ciné-foutoir dans le
couloir. Dans le couloir.
Mais quel
complètement
titre
épuisé.
Titre
mais
de Pascal.
Enfin, je trouve.
Ciné-foutoir dans le couloir.
Titre. Parce que nous, pendant le confinement, moi, je pouvais pas aller à mon atelier et lui, il pouvait pas travailler non plus. Donc, on a refait tous les classiques qu'il avait dans le couloir de notre appartement en DVD. Mmh. Et il m'a fait revoir ou voir des classiques du cinéma du monde entier. Et il a écrit.
Donc, le livre est totalement épuisé,
aussi,
mais
alors,
on envisage.
Ce n'était pas, c'était pas triste. Alors,
ah non, on faisait une séance tous les après-midi, on fermait la lumière, on tirait les rideaux. Et on était au cinéma.
Un moment privilégié, finalement.
Ah, mais
pour
génial. Ah, mais ça a été très, très, très productif.
Ça a été productif.
Ce confinement.
Oui, et c'est Alain qui avait envie, justement, à la villa, de pouvoir publier des livres issus de ce que certains artistes avaient pu faire de différent pendant le
confinement. Et là, il est paru chez Saison de Culture.
Bah, écoutez, c'est
formidable. Parce qu'on a été
merci
là,
à vous deux,
au bon moment pour le mettre en avant et en place surtout. Et on envisage peut-être de refaire une deuxième publication parce qu'il est très demandé. Et là, en plus, on lui fait la publicité.
Bon, c'était un grand plaisir de vous recevoir. À bientôt pour de nouvelles rencontres.
Oui.
Et donc, c'était Monique Ayoun au micro avec la collaboration de Jackie Kouken aux manettes.
Merci, Jackie.
Merci, Jackie.
Merci, Mona.
À bientôt.
À chaque doigt, l'état de bracelet autour des poignets. Et puis, elle chantait avec une voix qui citait Manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.